Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce tout nouveau numéro de Chut, on écoute la télé. C'est une émission spéciale Star Academy qu'on va vous proposer aujourd'hui. L'émission fait son grand retour sur TF1. Samedi soir, la quasi-totalité du corps professoral seront à notre micro. Karima Charny, la co-animatrice de Nikos. On aura la chance d'avoir Ladji Doucouré et le prof de sport, Lucie Bernardoni, Fanny Delegue, Marlène Schaff, Sophia Morgavi, le petit nouveau Jonathan Jeanvrin également sera avec nous. Et puis nous recevrons un des anciens élèves de la promo 2023, ça sera Axel Marbeuf qui viendra nous parler de ses projets. Mais pour commencer l'émission, nous allons vous proposer une spéciale Le Jour J, le nouveau film de Claude Zidi Junior qui sort mercredi au cinéma. À cette occasion, nous recevons Marie Parisot, Kev Adams, Jarry et Chantal Latsou. Oui, rien que ça, dans une poignée de secondes. Et puis en exclu podcast cette semaine, nous allons recevoir Sylvain Chaumet, le réalisateur du film d'animation Marcel et Monsieur Pagnol. Et puis on parlera également du Parfum du Bonheur, la suite sur France 2 avec Xavier Robic et Julia Faure. Vous l'avez compris, c'est une émission événement qui nous attend aujourd'hui. On démarre tout de suite avec notre spécial Le Jour J.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné dans les salles ce mercredi, c'est à ne pas rater, c'est la comédie de cet automne, Le Jour J, qui débarque au cinéma. Et on a toute une pléiade des comédiens qui sont là avec nous. Kev Adams qui est là. Bonjour Kev.
Salut, comment ça va?
Écoute, t'es infidèle, la vie est belle quand t'es là aussi.
Ben moi, dès que je suis avec vous, je suis heureux.
Marie Parisot, pour la première fois dans Chute, on écoute la télé. Bonjour Marie.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Jarry, qui est là. Oui, bonjour mon Jarry, comment ça va?
Eh ben, je vais très bien. Et gros bisous à tous les auditeurs.
Et puis on a Chantal Latsou, évidemment, qui est là aussi. Bonjour Chantal.
Bonjour les amis, tout le monde est tous là. On va vous présenter le film qui est génial.
Exactement, il est génial ce film. C'est vrai qu'on est à mi-chemin entre La Grande Vadrouille, La Septième Compagnie. Ça nous rappelle des souvenirs absolument extraordinaires. Et on y suit l'histoire de Denis Porte qui tient, on va dire, une caserne un peu fantôme pour essayer de tromper l'ennemi à quelques jours, à quelques encablures, voire même quelques heures du débarquement de 1944 en Normandie. Comment est venue cette idée de fou ?
C'est plutôt très bien résumé, c'est une idée de Claude Zidi Junior, c'est son film, son idée, son bébé depuis plusieurs années. Et c'est vrai que moi, dès que j'ai lu le scénario, j'ai été tout de suite embarqué dans cette histoire. C'est une vraie comédie, il y a beaucoup d'aventures, il y a un vrai suspense, il y a des personnages hauts en couleur et ça se passe effectivement, c'est la petite histoire qui se passe dans la grande. Tout le monde connaît le D-Day, le jour J, le débarquement, le 6 juin 44. Et là, c'est l'histoire de ces deux soldats qui vont débarquer effectivement depuis l'Angleterre vers les côtes normandes, mais le mauvais jour.
Et évidemment, Denis Porte va être flanqué d'un acolyte joué par Brahim Boulel avec un talent de dingue. Et ces deux-là vont tenter à leur façon d'aider ceux qui vont débarquer, les alliés. Mais rien ne va se passer comme prévu puisqu'en plus, Denis va tomber sous le charme de ta voisine, Marie Parisot.
Et oui, exactement. Cette résistante courageuse qui est grande gueule, une femme forte. Et puis elle croit, elle tombe amoureuse de Porte. Elle pense que c'est un beau soldat des Special Forces. et elle se fait un peu berner, mais elle fait partie de l'aventure pour rattraper un peu leur connerie.
C'est bien dit. Jarry, oui, cette petite coiffure te va à ravir. Je trouve que ce rôle est extraordinaire et puis ça change. On voit Jarry méconnaissable et franchement, c'est génial.
Bah, surtout, on ne reconnaît pas Jarry et j'invite les auditeurs à aller voir le film et à se dire mais où est Jarry dans le film ? Moi, j'ai adoré jouer ce personnage de Hans, chef SS, qui n'a qu'une seule envie, c'est de tuer le plus de juifs possible. J'ai aimé que ce soit très éloigné de moi. Et vraiment, j'invite les gens à me dire sur les réseaux sociaux s'ils m'ont trouvé dans le film. Voilà, on me voit plein de fois. Hein. Bisous. Hi.
Moi, en tout cas, je l'ai trouvé. Et à un moment donné, on va pas dire comment, hein, surtout pas parce qu'on va pas déflorer le film, mais j'ai vraiment souffert pour lui.
Oui. Le film s'attaque à une partie de mon corps.
De Hans. Jarry.
Oui, que j'utilise quand même assez régulièrement. Voilà, c'est du cinéma. Hein.
Ah oui, heureusement. Et Chantal, ma cat, comme dit Denis, ma cat. Extraordinaire, ce personnage aussi.
Personnage, une grande amoureuse, forcément. Qui attend son mari depuis la guerre de 14 et puis elle voit débarquer un soldat et elle est très amoureuse de lui et elle l'attend depuis tellement longtemps et c'est un vrai cadeau ce rôle.
Et c'est vrai que Kat à la fin quoi, quand elle voit Denis.
Ben oui.
C'est ça qui est assez drôle, c'est que j'adore comme il l'appelle affectueusement ma Kat et qu'il essaye de se défaire de ses griffes, mais il va pas y arriver si facilement que ça.
Et non, parce qu'à la base c'est quand même, on va dire, c'est un peu sa planque. Lui, pour éviter de dire qu'il est un soldat de la résistance, il va dire ben non, je suis le mari de Madame Catherine et puis Madame Catherine, bah elle a très envie de redécouvrir sa jeunesse, Madame Catherine. Elle a très envie d'explorer des parties de ce soldat. Donc forcément, forcément, ça donne lieu à des scènes absolument géniales.
Et pour en savoir plus, faut aller voir le film, évidemment, mon cher Kev, en famille. Ouais, exactement. Parce que c'est un film pour toute la famille. On rit, il n'y a pas d'autre prétention que de faire passer un bon moment, tous ensemble, et rassembler au cinéma, rien de tel en ce moment, on en a besoin.
Des choses véridiques, avec historiques. Donc c'est ça qui vient. On rit avec et on apprend des choses.
Avec une petite histoire dans la grande. Alors, vous vous connaissez au moins déjà pour vous trois, Chantal, Jarry et Kev, puisque vous avez fait Maison de Retraite 2 ensemble. Vous êtes presque retrouvés en famille, ensemble pour tourner. Ça aide ?
Mais oui, ça aide. Et puis c'est surtout une plus-value pour le public, c'est-à-dire qu'ils savent déjà un peu les ingrédients de ce qu'ils vont venir déguster face à cet écran. Et on a très envie de se retrouver dans des costumes différents, dans des histoires différentes à chaque fois, de former cette petite famille. Parce que si on arrive à se contaminer les uns les autres, on va contaminer le spectateur. Et c'est très jouissif, vraiment, de voir aussi Chantal là-dessous vieillir d'année en année, et de voir Kev qui passe de musculature à pas musculature, de petit bidou. Alors, petit bidou, tu vois, c'est les petites choses comme ça du quotidien qui nous font rire et qu'on essaie de mettre comme ingrédient dans nos recettes.
Chantal, t'arrives à te faire encore entendre avec ces deux-là, là, ou pas ?
Oui, oui, non, mais ils sont très drôles. J'aime beaucoup. Quoi de plus agréable que de vieillir au cinéma ? C'est formidable quand même, non ?
Et puis de voir les gens qui t'aiment toujours autant parce qu'on t'aime tellement, Chantal, que franchement, que chaque rôle et chaque apparition, c'est un fou rire. Et franchement, quand vous avez fait les avant-premières un peu partout, j'imagine pour toi ce bonheur de voir encore les gens rire.
C'est formidable, ça nous recharge le rire. C'est un échange. Quand on a des gens dans la salle comme ça qui nous font rire, on donne et puis ils nous renvoient et on leur renvoie. C'est une partie de ping-pong en fait. C'est extraordinaire.
Marie, t'as réussi à faire ta place au milieu de toute cette tribu de joyeux fous.
Oui, bah c'était pas difficile, hein. Ils m'ont intégré, j'avais l'impression de faire partie de la famille directement, donc ça n'a pas été trop difficile et puis on s'est vraiment bien marré. Et comme il le disait juste avant, c'est un groupe d'amis avant tout, c'est une petite famille, donc j'étais hyper privilégiée moi de participer à ça et d'intégrer cette famille.
Exactement. Alors le côté historique de l'histoire avec ce scénario de Claude Zidi, vous avez tourné à plein d'endroits et notamment à Omaha Beach quand même.
On a tourné sur la vraie plage du débarquement. Je dois reconnaître que c'était très émouvant, c'était assez fou, puisqu'ils ont évidemment redécoré la plage comme elle l'était à l'époque du débarquement. Et d'avoir la chance de tourner dans ce genre de décor, c'est quand même complètement dingue. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait du cinéma, quoi. C'est fou. Et d'ailleurs, les décors et les costumes dans le film sont complètement dingues. Faut aussi faire un spécial remerciement à toutes les équipes techniques qui ont bossé comme des fous, parce que le film est effectivement une comédie, mais on se moque pas de l'époque. L'époque est extrêmement respectée pour le coup.
Ah oui, les décors et tout, il y a des travails au niveau des chefs décorateurs et tout qui est absolument, c'est invraisemblable quoi, c'est vraiment très très joli. On va aller découvrir la bande-annonce, on va l'écouter maintenant et puis on revient juste après avec vous, c'est l'équipe du film Le Jour J qui est avec nous, la comédie de cet automne à ne pas rater au cinéma. On l'écoute, on revient juste après, n'est-ce pas Chantal ?
On revient juste après.
Gentlemen, Après l'échec de l'opération Butterfly, notre dernière chance est un débarquement massif sur les plages de Normandie.
Ils sont où les autres, là, l'armada, tout ça? On s'est pas trompé de jour? Mais non, non, on s'est pas trompé de jour, non, bien sûr que non. On s'est trompé de jour?
C'est le débarquement!
Ils sont où tous vos copains, les 150 000 hommes, les 5000 bateaux?
Vous devez être les éclaireurs, les forces spéciales.
Oh non, alors là pas...
Si, oui, exactement, si. Tout à fait. Nous sommes les forces spéciales.
Special Force!
Je veux ces deux esprits.
Mais d'ailleurs...
Oh oh, Wolf la gueule.
Oh oh, oh, il est moche.
Oh, horrible. J'espère qu'il a pas fait des gosses, celui-là.
S'il a fait des gosses, nous les tirons.
Allez, de retour pour la sortie du film Le Jour J. Aujourd'hui, Jarry, Marie Parisot, Kev Adams et Chantal Latsou sont avec nous pour fêter la sortie de ce film. Vous l'avez présenté au Festival d'Angoulême devant plus de 3000 personnes en folie il y a quelques semaines maintenant. Kev, c'est génial de voir rire 3000 personnes ensemble comme ça.
Ouais, 3100, 250, c'est pas le... De voir les gens rire devant un film, c'est notre plus belle récompense. C'est tellement dur aujourd'hui de faire de la comédie, c'est tellement dur de faire des films qui réunissent que quand on a la chance déjà de participer à un film de pure tradition de comédie française, de le faire en plus avec des potes, de le faire en plus en costume d'époque, bah voilà, pour moi, c'est toutes les cases sont remplies.
Marie, c'était ta première expérience, toi, au milieu de tant de monde?
Ah oui, et quelle expérience, mon premier long métrage, mon premier casting de long métrage est incroyable.
Alors, bon, 3000 personnes tous les deux, Jarry, Chantal, vous êtes habitués, vous faites rire 3000 personnes quasiment tous les soirs, Jarry, le week-end, bonhomme, ce spectacle, il fait ça au goûter, Jarry.
Non, mais comme disait Kev, c'est vrai que c'est pas le chiffre qui est important, déjà faire rire une personne, ça veut dire qu'on apporte du bien à cette personne, donc c'est vrai, là ils étaient 3000, la salle a rigolé très fort, et puis c'est super d'entendre les gens rire ensemble, tu vois, ça... Je trouve que ça fait du bien au-delà de la comédie, ça fait du bien d'être ensemble, de se dire qu'on peut rire, parce que attention, c'est une comédie qui peut aussi grincer par moments, parce qu'il y a des blagues qui sont osées, l'humour va loin, il y a plein de styles humoristiques différents dans le film, il y en a pour les petits, pour les très petits, pour les moyens, pour les grands, et pour les Chantal là-dessous. Donc c'est ça qui est important, c'est que nous ce qu'on voulait c'était faire un film qui parle à la famille, qu'on sorte en famille pour aussi profiter de ça, parce que souvent on fait les choses de notre côté, donc on avait envie de réunir et de rassembler.
Moi ce que j'ai adoré c'est dans le scénario aussi, il y a Didier Bourdon qui a une partition extraordinaire, il y a des petites touches aussi, des petits clins d'œil, par exemple au Covid ou au confinement, quelques petites touches comme ça qui viennent nous rappeler notre époque par subtilité.
Oui, parce que je pense que l'effet réel pour la comédie, il n'y a rien de mieux que de s'amuser, de dramatiser, de juger, de caricaturer. Et c'est vrai que c'est un peu la recette de Claude, de Kev et de ce qu'on aime faire, quoi. C'est de se servir de quelque chose que tout le monde connaît et de proposer une nouvelle version.
Chantal, Kat, elle a des tenues improbables.
Très belle tenue. Quand on m'a habillé, le costumier m'a montré mes tenues, elles étaient superbes, en panne de velours, avec des tons bordeaux, ocre, c'était magnifique. Je me suis bien amusé avec ça. Et cette coiffure magnifique des années 30, elle est très belle.
Magnifique. En tout cas, quelle est votre scène préférée à tous les quatre pour terminer, Kev?
C'est une très bonne question. Il y a beaucoup de scènes qui me font beaucoup rire dans ce film. Je dirais que une de mes scènes préférées est certainement la scène de la fourche, que je trouve très réussie. Et puis, si je devais en choisir une autre, ce serait la scène du grappin. Alors évidemment, je vais pas décrire ce qui se passe dans ces scènes-là parce que je vous laisse découvrir le film en salle, mais c'est des scènes qui sont visuellement très fortes et où on n'a pas besoin de jouer la blague, c'est juste la situation qui est très drôle. Et je trouve que quand on a la chance d'avoir des scènes comme ça à jouer, bah c'est une éclatade, quoi.
T'arrives à garder ton calme face à Brahim des fois? Parce que tous les deux, vous avez des punchlines qui sont incroyables.
Bah, faut savoir que c'est quand même pour moi un des mecs qui a le meilleur rythme de comédie aujourd'hui au cinéma. Il est non seulement très fort et très inventif, donc non, c'est pas facile de garder son sérieux face à lui. Non.
Marie, t'as eu des fous rires aussi, est-ce que t'as une scène préférée?
Mais déjà, Kev, ta scène préférée, c'est pas quand tu me portes pendant 3 heures de film déjà, ou... Parce que...
Moi je pensais.
Absolument pas, d'accord?
Très désagréable, d'accord?
Non, on a eu des sacrés fous rires, surtout quand on tournait de nuit, donc en plus on est un peu fatigué, donc ça part vite à volo. Mais la fourche, ça reste quand même une des scènes extrêmement drôles, autant à tourner qu'à regarder. Après, moi, une scène que j'ai adoré aussi tourner, c'est celle avec Didier Bourdon. Enfin, j'ai trouvé ça super, en fait, de tourner avec Didier. C'était juste un rêve de gamine. Et puis, il y avait cette génération de jeunes acteurs, Brahim, Kev et moi, face à Didier. Enfin, j'ai trouvé ça hyper émouvant, en fait, à tourner avec lui. Vraiment, jour-là, j'étais très ému.
Jarry.
Alors moi, c'est pas une scène qui me fait rire, que je préfère dans le film, mais il y a des effets spéciaux qu'on a rarement l'habitude de voir dans des comédies françaises. Et là, il y a vraiment plusieurs scènes avec des effets spéciaux qui sont waouh, vraiment.
Il y a eu un travail de fait là-dessus aussi assez remarquable.
Ouais, et c'est important de le dire parce que c'est aussi une des signatures de Claude Zidi. Hormis le fait qu'il ait dû porter Marie quelques heures et qu'il n'ait pas un effet spécial, il a vraiment senti le poids. D'ailleurs, depuis, il s'est abonné à la salle. Et Dieu merci, il commence à se passer des choses. Il était temps. Maintenant, il peut soulever des corps qu'il ne pouvait pas soulever avant. Et je parle vraiment physiquement. Enfin non, bref.
Et Chantal, ta scène préférée?
Alors, moi, j'ai beaucoup aimé la scène, le cours de séduction de Brahim Akev. Quand il lui fait un cours de séduction, comment il faut faire, quel œil il faut faire, ça c'est très très drôle. Et la scène aussi où toi tu te fais couper quelque chose, là, je ne sais pas, quand tu es tiré par une ficelle. Quand
oui,
il...
le crapin,
mais oui, oui, ce fameux qu'on vous laissera découvrir.
Et oui, donc c'est vraiment très réussi.
Et pour les fans de Chantal, vous la voyez en petite tenue, sexy, honnêtement, c'est pas dégueulasse.
je sais même pas comment on peut rajouter quelque chose parce que moi je pense qu'il faut laisser le mot de la fin là-dessus. Et puis Jarry, on continue à te découvrir sur Bonhomme, la tournée partout en France. C'est un véritable carton. Tu prends à partie des fois les spectateurs et puis tu leur fais un bien fou, ça se sent. Moi je regarde tes vidéos tous les jours et je suis très fan. Et en tout cas voilà, bravo pour nous faire rire comme ça tous les week-ends dans Bonhomme, ça tourne partout en France. Kev, il y a plein de belles choses aussi, Maison de retraite, la série qui débarque bientôt sur TF1 aussi. Un très beau rendez-vous. Chantal sera de la partie aussi. Bref, il y a plein de belles choses. Et Marie, quelques rendez-vous aussi qui nous attendent. Je suis sûr que ça va déclencher des choses, ça.
Non, pas sûr.
Il m'encourage. Il est encourageant. Ouais, sur scène, je repars sur les planches au Théâtre Antoine avec Jean-Paul Rouve dans Le Bourgeois Gentilhomme de Molière, voilà, qui est remonté sur scène.
Et ça, c'est la classe après Didier Bourdon, Jean-Paul Rouve. Franchement, c'est bien tout ça. Merci beaucoup, les amis. Le jour J, c'est mercredi au cinéma. On ne le rate pas. Et je vous fais plein de bisous à tous. Et je suis sûr qu'il va y avoir des millions qui vont aller vous voir mercredi.
Bisous et venez en famille.
Exactement, à très vite.
À très vite.
À très vite.
Nous pourrions nous infiltrer, aller au QG, prendre le poste radio et prévenir Londres.
Quelle moufiette! Réveillez-vous, Hans!
Aide-la.
Aïe!
Aide-la.
Allumez le feu!
J'aurais bien aimé neutraliser au moins un soldat allemand. Ça faisait la classe pour Margot.
Je crois que j'ai une idée, Zarkavi.
Non. Non, lieutenant, je vous suis pas.
À partir de maintenant, vous êtes le soldat Zarkai.
Zarkai.
Parfait.
Je peux aller dans la camp, Zarkai.
Oui, c'est ça.
Ah,
oui.
Oh, excusez-moi, pardon.
Quand même. Vous êtes le seul débile de l'histoire à vous prendre en photo tout seul. Personne ne fera jamais ça.
Un, deux...
Notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré à Marcel et Monsieur Pagnol, film d'animation de Sylvain Chaumet qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, c'est un véritable pan de l'histoire cinématographique de France qu'on va découvrir sous forme de film d'animation à travers Pagnol qui va se raconter à travers lui, l'enfant qu'il était. Et c'est ça qui est très beau en fait dans la plume que vous avez mis sur ce film.
Mais en fait, moi, je voulais. On connaît le vieux Marcel qui raconte ses souvenirs d'enfance, donc qui raconte ce qu'il faisait quand il était petit. Mais je trouvais ça assez touchant de voir l'enfant qui découvre sa vie d'adulte, parce qu'on connaît pas du tout la vie d'adulte Marcel. On le connaît enfant dans la garrigue, qui pose des pièges avec son ami Lily Desbellon, et puis on le connaît comme académicien à 60 ans, un monsieur un peu austère, qui est déjà vraiment une statue de la littérature française. Et on n'a rien entre les deux. Et moi, c'est ce que j'ai découvert en faisant le film. C'est vraiment comment ce petit gamin est devenu le grand homme Marcel Pagnol. Et c'est formidable. Et j'avais demandé à Nicolas Pagnol, parce que c'est lui qui est venu avec cette idée. Je lui avais dit, est-ce que la vie de ton grand-père mérite un biopic? Parce que bon, c'était un écrivain. Pour moi, c'était un écrivain. Bon, réalisateur aussi, mais ça peut être quand même assez ennuyeux. Et il m'a dit, lis ses souvenirs d'adulte, tu vas voir. Et effectivement, c'est les souvenirs d'un aventurier. Il a tout fait, quoi. C'est absolument incroyable.
Comment on se documente? Comment on prépare ça, justement?
Justement, j'ai lu trois livres. Dramaturgie de Paris, qui parle de sa période théâtrale. Cinématographie de Paris, donc sa période de cinéma. Et puis Confession, qui sont des choses un peu plus intimes. Et en plus, j'avais le petit-fils Nicolas Pagnol qui avait, lui, plein de trésors cachés, des choses inédites, des textes inédits que j'ai mis dans le film d'ailleurs.
On a encore des choses à découvrir sur Pagnol finalement.
Ah bah, je peux vous dire qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir, parce que moi j'avais été chez lui. Il a des archives, je pense qu'il en a ouvert qu'un dixième des archives. Il y a des cartons partout, avec des lettres manuscrites, avec des textes. Chaque semaine, il m'appelle, il me dit « Tiens, j'ai découvert ce truc formidable. » Et de temps en temps, ça m'arrivait de lui dire « Je vais l'utiliser. » Ça, je vais l'utiliser parce que c'est très très beau. Et il y a encore beaucoup de choses à découvrir, oui.
C'est très stratégique aussi de choisir les voix qui vont incarner les personnages sur un film d'animation. Comment elles ont été choisies?
Alors, quand j'ai travaillé, j'ai fait l'animatique, c'est-à-dire que j'ai filmé le storyboard et c'est moi qui faisais toutes les voix de tous les personnages, masculins, féminins, les oiseaux, les voilà. Tout. Du coup, on avait déjà une petite idée de ce qu'on voulait. Et ensuite, j'ai travaillé avec un imitateur qui s'appelle Thierry Garcia, qui était au Guignol de l'Info.
Exceptionnel d'ailleurs.
Qui est exceptionnel et qui nous a fait une plus de 20 voix sur le film, dont les voix de Rému, de Fernandel. Mais il a fait des voix, même moi je me rappelle même plus que c'était lui qui les avait faites. Tellement c'est un caméléon, c'est vraiment incroyable. On a une jeune imitatrice aussi, Anaïs Petit, qui a fait aussi quelques voix dans le film. Et puis après ça, on a dû faire appel à des acteurs pour faire la post-synchronisation. Et tous les acteurs, tous les personnages, je vais appeler personnages, ça serait du dessin animé, mais tous les personnages marseillais sont doublés par des Marseillais. Voilà, on voulait pas déconner avec ça. C'est très sérieux, à l'accent, il fallait qu'on le fasse de manière très 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 juste.
Espagnol en Provence, on rigole pas avec ça.
Et donc, on a des vrais Marseillais. Et puis pour la voix de Marcel, là il fallait qu'on ait effectivement un très bon acteur, donc Laurent Lafitte. Et il fallait surtout, parce qu'au début Marcel a l'accent forcément, puisqu'il arrive à Paris directement de Marseille, il a l'accent marseillais. Et on a pris un des acteurs marseillais comme coach, pour coacher Laurent, qui maîtrisait déjà très 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 bien l'accent marseillais. Mais le coach lui a permis de faire des petits ajustements. Donc c'était hyper sérieux.
C'est vrai que ce qui est très malin quand même, c'est d'avoir cette idée de faire raconter à travers le Marcel enfant, de faire raconter sa vie d'adulte. Ça rend encore quelque chose d'encore plus humain et de plus émouvant à travers ce personnage. Je trouve le fait que ça soit l'enfant qui raconte sa vie d'adulte.
En fait, c'est Marcel qui se rappelle de sa vie d'adulte, mais c'est l'enfant qui lui permet de retourner dans ses souvenirs, de replonger dans ses souvenirs, parce que c'est une époque charnière de la vie de Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, c'est le dramaturge dans les années 20, c'est le cinéaste dans les années les 30, 40. À ce moment de sa vie, il a 61 ans, il a vraiment décidé d'arrêter d'écrire. Il a des pièces de théâtre qui n'ont pas fonctionné, et donc il est un peu déprimé. Et puis en plus, il a eu un gros drame familial dans sa famille. Et il est vraiment à un tournant de sa vie où la vieillesse lui est tombée sur les épaules d'un seul coup. Et ce petit gamin arrive et le réveille. Et c'est lui qui va lui dire, voilà, on a vécu les mêmes choses ensemble, donc si tu racontes n'importe quoi, je vais te le dire. Et voilà, donc c'est une sorte de conversation entre les deux, et puis il s'amuse à se rappeler de certains souvenirs.
Quand on s'attaque à un monstre sacré comme ça, ça met une pression. Combien de temps il vous a fallu de travailler, Sylvain?
Le projet originel, ça vient de ma rencontre avec Nicolas Pagnol, donc il y a 8 ans. Après, il y a eu toutes les recherches de financement. Et puis le film, j'ai passé un an sur le storyboard et à peu près 2 ans et demi de fabrication.
Ah oui, c'est quand même plus long qu'un film-film, quoi.
Oui, c'est beaucoup plus long, ouais. C'est beaucoup plus long. C'est pas la même énergie. Il faut être très, très patient, ce que je suis pas. Mais je veux dire, tout se fait en amont, en fait. Je pense qu'à l'animatique, le film est déjà fini, plus ou moins. Mais après, il faut le fabriquer, il faut garder la pêche, il faut que ce soit beau. Après, c'est de l'esthétisme. Au début, c'est vraiment de la création du montage en temps réel. On fabrique le film, on le fait naître. Et après, on parle d'esthétisme. Et là, il faut faire des belles images et il faut que les personnages jouent bien, il faut que ce soit bien interprété, que le film soit bien monté. Mais ça prend du temps, effectivement. Pour revenir à la question par rapport à la pression, oui, c'est pas une idée que j'aurais eue de moi-même. En fait, c'est la rencontre avec Nicolas qui a fait que, en rencontrant Nicolas Pagnol, j'ai été invité dans sa famille. Et j'ai découvert le petit-fils, évidemment, mais quelqu'un qui est très doué en amitié, comme son grand-père devait l'être. Et à travers le petit-fils, je me suis rendu compte que le grand-père devait être quelqu'un de très bien. Et du coup, ça m'a complètement libéré de toute pression. Et je l'ai fait vraiment pour en hommage à son grand-père, mais aussi à sa famille, tous les gens qui sont... Tous les héritiers Pagnol, à Nicolas, à ses enfants, à son frère.
Et de même que c'est un hommage au cinéma français. Hein.
Et c'est un hommage au cinéma français, oui.
Vous avez envie de savoir ce que vous ne savez pas encore sur Marcel Pagnol. C'est l'occasion en tout cas de le découvrir avec ce film qui s'appelle Marcel et Monsieur Pagnol, avec les voix de Laurent Lafitte, Géraldine Bayas, Thierry Garcia Anaïs Petit et plein d'autres encore, des Marseillais évidemment, qui prêtent leur voix à ces différents personnages qui prennent vie. En tout cas, c'est votre plume, Sylvain. On est à 2 jours de la sortie du film. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Souhaiter que les gens y aillent en famille, surtout, c'est très très important. Que toutes les générations, que ceux qui connaissent Marcel, évidemment, y aillent pour en savoir encore plus sur Marcel. Et puis ceux qui connaissent pas, ben, pour découvrir. Et puis aussi dire que c'est quand même, avant tout, c'est comme les films de Marcel Pagnol, c'est un nouveau film de Marcel Pagnol avec la comédie. La comédie, la tragédie, enfin, la comédie qui naît du terreau de la tragédie, qui sont vraiment comme les films de Marcel Pagnol, où effectivement il y a des sujets sérieux, mais où il y a une tendresse dans le verbe et dans l'amour des personnages.
À découvrir au cinéma mercredi, Marcel et Monsieur Pagnol. On va se quitter avec la bande-annonce. Merci beaucoup Sylvain, en tout cas, d'avoir été avec nous pour en parler. C'est notre coup de cœur ciné cette semaine. À bientôt.
Merci beaucoup.
Bonhomme, on va bonhomme.
Marcel Pagnol.
Le point.
Pas si vite. Pagnol, sort un décimètre.
Oh. Grâce à la caméra, je pourrais voir couler une larme.
Tu veux que je pleure?
Moteur.
Je te le promets, maman. Un jour, tu seras fière de moi.
Alors, j'ai hâte de voir.
Mesdames et messieurs,
Marcel.
Pagnol.
Marcel Pagnol. Monsieur Pagnol.
Un jour, vous entendrez parler de lui.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à la série Le Parfum du Bonheur. Vous avez peut-être découvert les 2 premiers épisodes mercredi dernier sur France 2. On va continuer à suivre la suite mercredi soir. Et puis si vous n'avez pas résisté et on vous comprend, vous pouvez déjà voir évidemment les épisodes 3 et 4 en avance sur France.tv. En attendant, nous recevons aujourd'hui Xavier Robic et Julia Faure qui sont avec nous, alias Ben et Emma. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Alain.
Bonjour Alain.
Merci d'être là. Alors, on a planté un peu le décor la semaine dernière quand même. On en a parlé largement, l'histoire de Pauline qui refuse de faire le deuil de son couple. 10 ans de mariage avec Ben alors que lui a plutôt tiré un trait définitif. Quoique, on verra au fur et à mesure parce qu'il se passe beaucoup de choses dans cette série. Et Emma, c'est la sœur de Pauline. Et il va se passer plein de choses aussi sur ce personnage. Qu'est-ce qui vous a plu déjà en premier dans ce rôle, dans cette histoire, dans ce projet, Julia?
Baya Kasmi.
ça m'étonne pas.
Non, mais j'avais déjà travaillé avec elle et puis je suis tout ce qu'elle fait au cinéma. Et j'adore comme elle est capable de faire jaillir de la vie tout le temps et comme elle est capable de déborder du cadre tout le temps. C'est-à-dire qu'on arrive le matin sur le tournage, on sait à peu près ce qu'on doit tourner dans la journée et finalement rien ne se passe comme prévu et tout est un peu plus vivant et tout est un peu plus drôle et tout est un peu plus émouvant que ce qu'on avait imaginé.
Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions hein, dans cette série, on passe un peu par tous les états et c'est ça qui est bien. C'est ce qui t'a plu aussi Xavier ou pas?
Oui, bah c'était l'une des rares fois qu'on me proposait un personnage qui n'est pas défini par sa profession, où j'ai vraiment que des choses intimes et à faire, et c'est vrai que c'est pas quelque chose d'habituel, voilà, qu'on me propose, donc ça me permettait de passer dans plein d'émotions que je n'avais pas l'habitude de travailler, de montrer à l'écran, donc j'étais content. Et pareil, l'enthousiasme de Baya, c'est ça qui est vraiment qui m'a conquis, et je connaissais aussi un peu son travail avec Michel Leclerc, etc. Non, j'avais très très envie de travailler avec elle, et en plus on s'était croisé genre dans un studio de podcast quelques jours avant qu'elle me propose le rôle, et je me suis dit, ah c'est pas possible, c'est un signe, et donc voilà.
Comment on pourrait le définir, Ben?
Je dirais que c'est un homme plutôt moderne, déconstruit, et qui, pour son bien à lui et le bien de l'enfant qu'il a avec Pauline, trouvait un moyen de terminer leur histoire, mais proprement. Non, c'est un chic type. Ouais, c'est un chic type.
C'est vrai qu'on ressent beaucoup d'émotions en le voyant, parce qu'on le comprend aussi. Puis Pauline nous amène énormément beaucoup d'émotions. On va mettre un moment, en tout cas, à comprendre ce qui a pu se passer après 10 ans comme ça de plein amour. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça aussi l'histoire. On va déconstruire au fur et à mesure ce qui a pu lui conduire à en arriver là.
C'est ce qui peut faire peur au début de la série, de se dire, ah ok, ça va être l'histoire de la séparation d'un couple. Mais en fait non, ça va bien au-delà, quoi.
Ça va bien. On va remonter bien en arrière aussi. Le personnage d'Emma, Julia, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Comment tu le définirais, toi?
Elle commence comme un archétype. C'est vraiment la Desperate Housewife, la Brie Van de Kamp de Bordeaux. Miss Perfection, elle contrôle tout. Elle contrôle ses enfants, elle contrôle son mari. Elle essaye de contrôler sa fratrie aussi.
Tu n'es pas sans agacer un peu des fois, Pauline?
Oui, il y a de quoi. J'admets qu'elle peut être un peu agaçante de temps en temps. Et puis finalement, évidemment, ça se fissure parce que les gens, généralement, qui se construisent comme ça derrière un tel vernis de perfection, d'excellence, d'élégance, d'apparence, derrière, c'est qu'ils n'ont pas du tout confiance en eux et qu'ils essayent juste de cacher tout ce qui va pas, leurs défauts et le désamour qu'ils ont d'eux-mêmes, quoi. Donc c'est ça qui est hyper touchant. C'est...
Oui, quand le vernis craque.
Quand le vernis craque.
Bon, c'est vrai que tourner avec Baya, j'imagine le bonheur que ça peut être, mais il y a dû y avoir des scènes qui vous ont marqué peut-être plus que d'autres ou pas? Tous les deux.
Moi, les scènes qui me marquent, c'est les scènes où le vernis commence à se fissurer. C'est-à-dire quand elle boit un petit peu trop, un petit peu déraisonnablement. Ça m'a marqué parce que c'est amusant à faire, parce que c'est très joyeux. Et puis évidemment, les moments où ça craque vraiment, dans l'épisode 3 notamment. Où,
on va découvrir un mercredi.
Où là, on voit vraiment son humanité et toute sa fragilité. Et où on peut s'attacher à elle et se rendre compte qu'on a tous un petit peu d'elle en nous, je pense. Quoi.
Un meilleur moment sur le tournage, une anecdote?
C'est pas un meilleur moment ni une anecdote, mais la scène de l'épisode 3 ou 4, je sais plus, qui se passe dans l'hôpital, c'était notre deuxième jour de tournage et c'était vraiment une scène très difficile. Et au bout du deuxième jour, on était directement dans le bain et moi en tous les cas, j'appréhendais beaucoup cette journée-là. Et j'étais très content quand finalement que ce soit dès la deuxième et qu'on s'en soit séparés, qu'on s'en soit débarrassés directement.
Alors, il y a des projets pour vous deux aussi, en dehors, Xavier. Parce qu'il n'y a pas que le parfum du bonheur, il y a des choses dans lesquelles on va te voir dans les mois qui arrivent.
Oui, là, j'ai une petite participation dans Moi qui t'aimais, le film de Diane Curis.
Qui vient tout juste de sortir, il y a une dizaine de jours au cinéma.
C'est ça. Et après, j'ai tourné beaucoup cet été de choses qui vont sortir l'année prochaine. Et certainement, peut-être, La maman du bourreau, enfin.
Très bien. On te retrouvera d'ailleurs.
Normalement, c'est novembre. Ouais.
Tu vas revenir dans même pas un mois alors.
Peut-être.
J'espère bien, en tout cas. Pour toi, Julia?
Moi, j'ai joué dans un film de Pascal Bonitzer qui s'appelle Maigret, le mort amoureux, qui sort le 18 février avec Denis Podalydès. Et dans un film de Christine Paillard avec Roche Dizem qui s'appelle Billy Melody. Il n'y a pas encore de date de sortie parce qu'elle est en plein montage. Mais ça sera certainement courant 2026.
Alors, Roche Dizem, au moins, ça vous réunit, hein, puisque c'est aussi le héros de Moi qui t'aimais qui est en salle actuellement.
Exactement.
Voilà. Un petit point commun. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous. Parfum du bonheur continue. Si vous voulez pas attendre mercredi, hein, c'est déjà sur France.tv. Puis autrement, c'est mercredi soir. Le rendez-vous, l'ultime rendez-vous, les deux derniers épisodes, c'est à 21h10 sur France 2. Merci à tous les deux.
Merci Alain.
Merci beaucoup.
On avait prévu de rentrer de la maternité avec une petite fille et on est rentré les bras vides.
En un an, on n'a jamais réussi à parler de Jade tous les deux. Moi, j'ai besoin de parler d'elle. Je veux redevenir l'homme que j'étais avant.
Ça, c'est impossible en restant avec moi.
Je suis pas certain d'être capable de revenir en arrière, Pauline. Je suis pas sûr d'y arriver.
On peut juste essayer.
Surprise. Je suis Teddy,
le livreur.
Tu peux me présenter ton mec quand même. C'est pas comme si personne savait que t'aimais les mecs.
Tu vois ce que t'es en train de faire là? C'est exactement ce que tu reproches à maman.
Je sais plus comment me comporter avec toi.
Tu vois, si tu peux pas m'aider, tu me laisses tranquille.
J'aime bien cette petite. Ça a toujours été ma préférée.
Elle se barre, puis nous, voilà, on a grandi sans savoir pourquoi elle est partie. C'est ça que je veux savoir, pourquoi elle a fait ça.
Allez, place à la Star Academy dans quelques instants. Le corps professoral à notre micro, Axel Marbeuf. C'est dans un instant, à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Allez, aujourd'hui, je vous fais découvrir également une artiste assez incroyable avec une voix magnifique. Elle s'appelle Laura Ferré. Elle s'est fait connaître sur TikTok et vient tout juste de sortir son EP Poupée Soldat et nous offre une très belle reprise d'une chanson de Sylvie Vartan, La Maritza, dont on va vous envoûter tout de suite sur votre radio.
La Maritza, c'est ma rivière, comme la Seine et la tienne, mais il n'y a que mon père maintenant qui s'en souvient. Quelquefois, de mes 10 premières années, il ne me reste plus rien, pas la plus pauvre poupée, plus rien qu'un petit refrain. D'autrefois, la 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 liberté. Moi je ne comprenais guère, mais mon père lui savait. Écoutez, quand l'horizon s'est fait trop noir, tous les oiseaux sont partis sur les chemins de l'espoir, et nous on les a suivis. De mes 10 premières années, il ne me reste plus rien. Et pourtant, les yeux fermés, moi j'entends mon père chanter ce refrain. La, 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 la 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 la.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Accompagne les élèves pendant toute cette Star Academy. Karima Charny est avec nous. Bonjour Karima.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous.
Alors, merci à vous de toujours soutenir la Star Academy, merci beaucoup.
Écoute, samedi, c'est le grand lancement. Comment tu te sens là, à 6 jours?
Heureuse, excitée, heureuse. Avec un sentiment un petit peu de, faut que ça démarre là, ça y est, faut que ça démarre. Faut qu'on vous les présente parce que les élèves de cette nouvelle promotion sont extrêmement talentueux, donc il faut qu'on vous les présente. J'ai envie d'accélérer un petit peu le temps.
Alors c'est vrai que t'es un peu la grande sœur maintenant des académiciens depuis la saison 2022, quelle bonne idée. Quelle est la meilleure personne qui pouvait être justement à cette place que quelqu'un qui a vécu de l'intérieur toute cette aventure et en plus sur une saison qui a marqué toute notre génération, on peut le dire aussi, en 2004 hein.
C'est trop gentil, du coup je dois répondre à ça.
Ben non mais c'est vrai, non mais c'est vrai, qui pouvait mieux que toi savoir par quoi ils passent ces élèves aujourd'hui, les conseillers?
Mais c'est vrai que j'ai une chance incroyable, je peux exercer le métier que je rêvais d'exercer dans l'émission qui m'a fait naître médiatiquement. Donc déjà c'est un point qui est juste incroyable et je suis hyper reconnaissante, je suis toute pleine de gratitude, mais je suis aussi très reconnaissante de pouvoir les accompagner au mieux en comprenant certains sentiments, certaines sensations que peut-être une animatrice qui n'aurait pas fait l'émission ne pourrait peut-être pas comprendre, parce qu'à par moment on peut se dire oh là là il pleure en 5 secondes, c'est n'importe quoi. Non, vous vous rendez pas compte que là c'est une pression qui est unique à cette émission.
Un accélérateur de vie en plus.
Un accélérateur de vie, un accélérateur de sensations, de sentiments. Donc c'est vrai que c'est plutôt chouette. Je dirais même que c'est très intelligent de la part de la production d'avoir mis deux anciennes à deux rôles différents dans l'émission. Lucie sur le point de vue artistique, moi ce que j'aime dans mon point de vue à moi c'est de les accompagner, de les guider, de les former aussi, parce que mine de rien toutes les questions que je leur pose dans le bus, ça les prépare à vos interviews quand ils sortent aussi, donc je les forme aussi dans un sens, mais je ne juge jamais leur prestation artistique. Et c'est là où je me pousse un petit peu de Lucie, où je dis que c'est moi qui ai la meilleure place, parce que du coup je peux profiter de certaines choses aussi.
Donc elle aura été emblématique cette saison 4 quand même, vous êtes toutes les deux aujourd'hui, là c'est la quatrième saison de la nouvelle génération, aussi vous allez avoir un lien particulier. On sent pour toi en tout cas que c'est dur des fois de laisser les élèves qui sont éliminés sur le prime et toi de partir avec tous les autres au château, on sent que même pour toi des fois c'est difficile de laisser là sur le carreau comme ça.
Il y a des moments super émouvants, il y a des moments qui... Bah parce qu'en fait, toi, t'es professionnel, t'es cadré, t'es en direct, tu connais ton rôle, tu sais ce que tu dois faire, tu sais que t'as quelques minutes, tu leur laisses quelques minutes pour se dire au revoir. Et ensuite, il faut absolument les faire rentrer dans le bus parce que c'est le timing de l'émission, on est quand même en direct sur TF1. Mais en même temps, tu ressens quelque chose aussi, hein, t'es humain. Moi, je suis humaine comme tout le monde. J'ai... Là, pendant que vous me posiez cette question, le premier souvenir qui m'est arrivé, avec une petite montée aussi, parce que je suis une fille sensible et émotive et je ne le cache pas, et je pense aussi que ça fait partie de moi et que c'est aussi ma manière d'animer, ma manière d'être aussi avec nos élèves, c'est le départ d'Emma par exemple, moi l'année dernière, qui m'a vraiment fendu le cœur pour le coup, parce que elle était inconsolable sur le plateau et malheureusement nous on devait partir. Donc oui, par moments on est touché, c'est normal. Et puis je vous parle même pas de l'affection qui s'installe au fur et à mesure, parce que forcément quand vous restez 4 mois avec des élèves que vous croisez tout le temps, bah il y a une affection. Donc à chaque fois qu'il y en a un qui part, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un compagnon formidable sur l'émission qui est Nico Saliagas, qui fait toujours des photos pour Instagram, etc. et qui arrive, bah parce que de toute façon il a un œil de photographe magnifique, mais qui arrive toujours à choper un instant. Et grâce à lui, j'ai des souvenirs de ces moments-là. J'ai des photos où je prends Charles dans mes bras à l'issue de sa demi-finale quand il est éliminé. J'ai des photos avec Ulysse, etc. Et oui, parce que je suis triste. Je sais que je vais les revoir, mais ça sera plus jamais pareil. Je serai plus jamais leur accompagnante à partir du moment où ils sortent.
Oui, ça sera des artistes, effectivement. On aura les petits points de circulation à minuit et demi, j'espère.
Bah, je pense que Nico, s'il aime trop le point bison futé. Nico, s'il aime trop me demander où n'est, alors que par moment, je ne sais pas où n'est. On a tout eu sur l'autoroute. Là.
On va tout avoir, puisque ça sera tous les jours la quotidienne avec toi. Et il va justement nous la rythmer.
Du lundi au vendredi à 17h30, le samedi, on est à 17h15.
Et le dimanche, un peu plus tôt.
À 16h05.
Et ben voilà. Et puis évidemment, vous pourrez suivre aussi les aventures des académiciens sur TF1+ Premium, en live aussi, pour ceux qui veulent voir un peu comment ils évoluent. Tu veux continuer bonjour un petit peu aussi de façon épisodique pendant la Starac malgré tout?
Alors pas de façon épisodique, moi maintenant je suis revenue à bonjour une fois par semaine le vendredi et j'incarne une balade avec un artiste, une rencontre. Donc même pendant la Star Academy, je serai à l'antenne. Après vous savez que par exemple je pense aux Miss France, quand il y aura les Miss France ça sera un samedi soir, donc la Star Academy sera un vendredi soir par exemple. Là je ne serai pas à bonjour, mais ça sera vraiment exceptionnel.
Il va falloir dormir un peu quand même.
Bah, en fait, c'est compliqué de me réveiller à l'heure à laquelle je vais me coucher. Humainement, c'est pas très possible, sachant que je suis une fille assez saine. Donc, humainement, ce n'est pas possible. Mais ça sera vraiment exceptionnel. Je serai toujours à bonjour et je serai toujours à la Star Academy.
On a déjà hâte de te retrouver donc samedi pour le grand lancement. Ça sera à partir de 21h10, évidemment, sur TF1. On attend avec impatience de découvrir cette nouvelle fournée d'académiciens.
Sachant que vous pourrez suivre en direct les premiers pas des académiciens au château.
Avec toi, évidemment, qui va les ramener à la maison.
Je les ramène à la maison, mais après, je les laisse au portail. Et c'est à eux de découvrir ce qui leur attend.
Merci. À bientôt, Karima.
À bientôt. Merci à tous.
Ton verre est plein. Est-ce encore de ma faute? Si tu le vides, ce le sera sans faute. J'ai trébuché sous le poids de tes mots. Mais relevé, tout ne sonne pas si faux, c'est faux. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Ma ce ne sera que sur moi. Je reste seule, assise avec mes larmes. Celle qui reste après tout le vacarme. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. C'est bien ma faute. Parfois je ne te reconnais même pas. J'entends le bruit sans entendre ta voix. J'ai grillé.
La prochaine promo.
Il y a un amour qui se dégage de vous pour ces élèves, pour ces jeunes gens. Vous leur avez fait vraiment, je trouve, déclencher des trucs, faire sortir des choses qui changent. C'est vrai que je me sens bien.
Merci d'avoir remarqué ça. Effectivement, c'est toujours l'attachement pour mes élèves. Je ne sais pas comment vous pouvez transmettre, c'est donner de l'amour, c'est formé dans la discipline qu'on maîtrise. Mais si on n'a pas cette passion de l'autre, l'amour de l'autre, on ne peut pas transmettre. Donc on s'oublie, c'est s'oublier de transmettre. Et à ce moment-là, si la personne qui est en face de nous est disponible et prête à recevoir le conseil, se crée un vrai lien. Donc Charles, par exemple, au moment où il a eu besoin de moi, j'étais là, mais parce que il était en demande. S'il n'avait pas été en demande, je n'aurais pas pu l'aider. Donc en fait, on travaille main dans la main. Voilà. Ce contact, il n'est pas physique. La voix, c'est un cordon ombilical qui nous relie. Parfois, j'ai des élèves qui m'ont dit « Tu es une sage-femme de la voix. Tu mets au monde notre voix. » Et j'ai des anciens élèves qui m'appellent leur « maman de la voix ». J'ai d'ailleurs moi-même appelé comme ça ma maestre, ma maman de la voix.
Parce qu'ils arrivent des fois, ils sont un peu bleus, ils débutent. Il y en a qui n'ont pas beaucoup forcément eu d'expérience avant, comme Elena il y a 2 ans, qui avait juste chanté dans sa salle de bain. Il faut leur apprendre ces techniques pour pas justement se l'user, cette voix. Il faut leur faire apprendre justement comment aussi faire attention à elles, parce que ça va devenir leur outil de travail.
Alors souvent, les élèves qui arrivent avec peu de bagages sont des buvards. Ils ont tellement envie d'apprendre. Moi, ça me touche. Ce qui me touche le plus, c'est ça. Et justement, à ce moment-là, avant de mettre au monde la voix en tant qu'instrument, on libère l'esprit, la pensée de pourquoi tu chantes, qu'est-ce que tu es venu chercher. Il y a une compréhension. Déjà, apprendre, pour moi, l'artiste doit apprendre à se connaître lui-même. Il doit savoir pourquoi il est là, quels sont ses objectifs. Et ce moment d'échange est indispensable. Et ce que j'aime chez les débutants, c'est ça. Ce qu'ils sont complètement offert, avec le désir, pas de performer, mais de se trouver. Donc la voix, c'est le travail, effectivement, de l'instrument, mais de l'esprit et du corps. Hein. Donc cette unité fait que ça stimule beaucoup d'empathie chez moi.
Vous arrivez à repérer rapidement le potentiel de chacun ?
Oui, tout à fait. Oui, je repère rapidement. Je dis, quand j'entends une voix, j'entends votre voix, je suis capable de vous dire où elle est placée, comment elle résonne. Je peux même vous parler de votre histoire. Donc la voix, c'est vraiment ce qui collecte votre identité, de votre jour de naissance, votre éducation, où vous évoluez, vos envies, vos aspirations. Donc oui, toutes ces dimensions-là se regroupent pour libérer la voix et tenir les rênes de sa voix.
On disait maman de la voix. Mais ça ne s'arrête pas que quand les caméras sont éteintes. C'est ça aussi qui est vrai chez vous. C'est que derrière, vous avez continué à leur donner des conseils. Vous avez continué à les voir, à certains d'entre eux. Ils ont vécu une tournée où il a fallu certainement qu'ils prennent des conseils auprès de vous parce que c'était plus de 60 dates à travers toute la France. Faut tenir aussi ce rythme.
Oui, bah heureusement, parce qu'on n'est pas des tireurs à gages. On n'est pas simplement engagé pendant 3 mois pour former les artistes. Il y a l'après. Alors, certains élèves ont eu besoin d'avoir des tips, d'autres un peu moins, et c'est super. Mais en tout cas, je sais que j'ai laissé une empreinte. En travaillant à la fois sur le côté très didactique, rigoureux de la technique, mais en même temps, l'aspect ludique, la fantaisie qui laisse des images. C'est-à-dire, bah tiens, ça me sert un peu, il faut que je chiale, par exemple. La chialerie, un exemple. L'articulation, j'oublie d'articuler pour trouver de la hauteur, je vais penser aussi slip. On laisse des petites empreintes rigolotes pour retrouver le plaisir des exercices.
Et rien de tel pour s'en souvenir.
Absolument, c'est ça, c'est comme les enfants. Hein. On se rappelle, je sais pas vous, mais moi je me rappelle de blagues quand j'étais gamine qu'on m'a raconté parce que ça m'a fait rire. Voilà.
C'est chouette tout ça. Bon, on peut dire que Sophia Morgavi va être dans la continuité pour cette nouvelle saison.
Oui, avec des surprises quand même.
Et qu'elle a hâte de découvrir ses nouveaux élèves samedi.
Oh là là, oui, 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 c'est long. Hein.
Il faut d'impatience. Hein.
Je vais compter les dodos là, c'est très long.
Il y en a plus que 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 5 dodos et on y est.
5 dodos et on y est.
Bon, Sophia, à samedi, 21h10 sur TF1, en direct.
Oui, avec joie, avec plaisir. Merci.
Découvrir cette nouvelle saison de la Star Academy et puis on continue à vous suivre aussi sur scène. Des projets ?
Tout à fait. Alors après la Star Academy, il y aura une pièce de théâtre. Vous allez découvrir prochainement l'actualité.
Et on suivra la Star pour tout savoir, évidemment, puisque ça sera annoncé. Merci beaucoup, Sophia. À bientôt.
Merci, à bientôt.
J'étais ton cœur, j'étais ton amour. Ma tristesse, j'en ai fait le tour. Moi qui voulais être le soleil qui tous les matins te réveille. Je serai l'orage à ta fenêtre, à crier pour te faire perdre la tête. Je sécherai mes larmes, je soulèverai les montagnes. Je serai unforgettable, plus jamais blessé, plus jamais laissé, même loin. Je crierai ces mots, on s'est aimé, mais moi je t'oublierai. Je serai cette femme dans la rue que tu crois avoir reconnue. Je serai les nuages dans le ciel, je serai le tonnerre dans ton sommeil. Je serai dans tes rêves et dans ta mémoire, même dans le noir je serai là pour laisser brûler les flammes. Soulever les montagnes, je serai unforgettable, plus jamais blessé, plus jamais laissé, même loin de toi. Je crierai ces mots, on s'est aimé, mais moi je t'oublierai.
Et on va faire un peu de sport maintenant à la Star Academy. Bien oui, parce que la forme, c'est important. Et c'est pas Ladji Ducouré qui va nous dire le contraire. Bonjour Ladji.
Ah, bonjour, vous allez bien? Très important pour la santé mentale, la santé physique et pour le bien-être. C'est un échappatoire, c'est un défouloir. C'est un exercice qui peut te permettre de te sentir de mieux en mieux dans ton corps. Et surtout, plus tard pour la tournée, c'est des exos qui vont faire en sorte que tu tiennes à cette fameuse tournée, s'il y en a une.
Il y en a une, normalement, il y en a une. En tout cas, elle a été annoncée samedi, ça y est, c'est le lancement. Alors souvent, Adji, moi ce que j'ai eu l'impression, c'est que c'était certainement la matière la plus redoutée par les élèves, le sport. Mais depuis que t'es là, j'ai l'impression que ça a changé un petit peu, ça.
Bah, je sais que c'est le travail que la plupart des profs de sport avaient, c'était de faire en sorte que les élèves viennent de leur plein gré et qu'ils ne soient pas super nonchalants par les exercices qui sont un peu durs physiquement. Donc, puis moi, j'essaie de rajouter une pierre à leur édifice pour que cette matière soit vue comme comme quelque chose de pas d'obligatoire, mais quelque chose de, ouais, d'obligatoire pour soi-même, quoi, tout simplement. Et donc, et ça passe par le jeu. Et c'était mon objectif et c'est encore mon objectif cette saison.
Alors il y a des nouveaux élèves qui vont arriver, mais j'imagine qu'effectivement quand on débarque sur un paquebot comme ça, comme la Starac, en tant que prof de sport, pourquoi on dit oui à la base?
Tout simplement.
On a le palmarès sportif Qatar.
Parce que nous sommes les ambassadeurs de notre activité, donc le sport. On est sortis des Jeux Olympiques et Paralympiques et on avait une superbe exposition. Je pense que les gens étaient super enthousiastes de voir les champions français. Et derrière, moi j'ai voulu aussi continuer à surfer en tant qu'ambassadeur sur tous les supports. Et ça a matché l'année dernière, donc cette année on me redemande, je suis là. C'est surtout par rapport à ça, qui peut être les meilleurs ambassadeurs du sport? Bah les sportifs eux-mêmes et en diffusant la bonne vibe au monde qui s'apprête à faire un peu de sport. C'est vrai que quand on regarde les artistes, on se dit ouais bon bah le sport quoi, bah si, en fait ils en font tellement beaucoup pour pouvoir se recentrer, se ressourcer, préparer des tournées, pouvoir enchaîner
des primes comme il va y avoir.
Ah oui, des primes, chanter, danser, pouvoir enchaîner 4 chansons et courir, se déshabiller, se rhabiller et revenir. Il faut du cardio, hein. Et il faut être fort physiquement, quoi. Donc, c'est une matière qui est un peu dans l'ombre, mais au vu de tout le monde, elle est en première lumière, je dirais.
Malgré tout, t'as vraiment une main de fer dans un gant de velours à chaque fois, parce que tu les pousses un peu dans leur retranchement. Quels sont ceux qui t'ont le plus ému, ceux qui t'ont peut-être le plus surpris aussi par leur surpassement de soi?
Je dirais un peu tout le monde. Tout le monde, c'était génial. Vous savez, quand t'as Marine et Maya qui viennent te dire « moi, j'aime pas le sport » et que finalement, merci Ladji de nous avoir fait aimer tout ce qu'on a pu faire, même si c'est difficile pour certaines de se lever et d'y aller, tu te dis « bon, moi, j'ai réussi ma mission ». Ils ont enlevé cette appréhension. Ils se sont rendu compte que bah ça fait du bien. Aujourd'hui, je vois des fois Maya, elle fait des sorties, elle court. C'est bien.
C'est
bien.
C'est génial, Paris réussi.
Voilà, Paris réussi. Et puis tous les autres, ils étaient plus ou moins pareils. Marine, elle est là, elle est contente d'avoir fait tout ce qu'elle a à faire. Et quand elle me recroise, elle tombe dans mes bras toujours. Et c'est fort. Ça crée des liens. Et ce qui est fort, c'est que dans la danse, donc c'est du sport, la danse et la musique, le monde culturel comme ça, bah tout, c'est une activité qui crée vachement de liens. Tu sais, le partage. Tu peux te transporter via la musique parce que tu écoutes une mélodie qui t'emporte et un exercice qui peut t'emporter, ainsi de suite. Et en fait, bah, on est des cousins, quoi. Pardon, mais ouais.
C'est chouette tout ça. T'as hâte. Dans 6 jours, on va tous les découvrir. Quels sont les premiers conseils que tu vas leur donner?
Moi, d'être le plus naturel possible et de kiffer chaque instant parce que ça va aller très très vite. Chaque semaine, il y en aura un qui va partir. Malheureusement, c'est le but du jeu et il faut bien se marteler dans la tête que le jeu, c'est essayer d'absorber le plus possible des tips qu'on va leur donner, parce que derrière, après, bah, ça sera fini. Et les personnes qui vont jouer, qui vont réussir à rester dans le prime, bah, ils vont avoir des tips en plus. C'est une formation accélérée et il faut pas qu'ils oublient. Donc, ils peuvent pas ne pas prendre le temps et de pas savourer chaque minute. Il faut qu'ils savourent tout de suite.
Je dirais presque que t'es coach sportif et mental de l'équipe.
Bah, c'est ce qu'on m'a demandé. Je pense que c'est pour ça que je suis là. C'est parce qu'il y a cet aspect mental qui est important aujourd'hui.
On parle beaucoup de la santé mentale.
La santé mentale aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que on arrive à tenir, quoi. Et c'est trop important.
Merci beaucoup, Ladji.
Bah, très vite, hein. C'est quand? C'est samedi, là, hein.
C'est samedi. C'est 21h10. C'est sur TF1. Ne rate pas, évidemment. C'est le grand lancement de la Star Academy. Nouvelle saison. On a déjà hâte, en tout cas, de tous vous retrouver et de retrouver cette nouvelle promo qu'on a hâte de découvrir. Mais vous aussi, si je le sais, tous.
Allez, à bientôt.
À très vite.
J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, un vrai, qui parle fort et qui a des pecs. Qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées.
assez. Et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer,
bagarrer, bagarrer.
Et qui s'empêchent de pleurer,
de pleurer, de pleurer.
Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi. Et ouais j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux, j'avoue, je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler, ils m'entendaient jamais pleurer. Je sais pour eux c'est compliqué, et ouais, cette foutue virilité. Qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent et qui sera le premier. C'est vrai parfois j'ai de la peine pour leur petit cœur qui saigne. Mais les filles elles saignent aussi. Désolé les gars. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi.
Et un petit mot, bien sûr, de notre prof d'expression scénique, Marlène Schaff, qui nous rejoint. Bonjour Marlène.
Bonjour.
Bon, ça y est, les petits nouveaux arrivent. Samedi 18 octobre, c'est un peu la folie, j'imagine, dans la tête, Marlène, là, non?
Bah, moi, j'ai hâte. Je me laisse la surprise jusqu'au dernier moment pour les découvrir en même temps que les téléspectateurs. Donc, je suis impatiente.
Alors, tu les accompagnes toujours, je trouve, avec une bienveillance extrême. T'es toujours à leur côté, que ça soit des fois dans les coups durs, les coups de mou, ou dans les coups de joie aussi, parce que c'est vrai que tu les accompagnes un peu dans tout ce parcours intense.
Bah, moi, c'est ce que j'aime à dire. J'essaye de leur donner ce que j'aime qu'on me donne à moi aussi. Donc, voilà, ne fais pas aux autres que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même.
C'est dingue, cette aventure Starac. Qu'est-ce qui t'a fait dire oui au départ?
L'envie de montrer le travail. J'ai tellement entendu d'artistes dire qu'ils osaient pas parce que c'est pas un vrai métier, parce que leur famille n'étant pas dans ce milieu-là, c'est de l'ordre de la magie. Et donc j'étais contente de pouvoir participer à une émission où on montre le travail, le processus, et où on montre aussi que être un artiste, c'est pas que être une star. Il y a plein de manières de faire une belle et grande carrière quand on fait ce métier-là.
Alors, dimanche prochain, pour le premier dimanche, il n'y aura pas de quotidienne, mais par contre, on pourra suivre en direct ton premier débrief, dimanche après-midi sur le live, pour les abonnés TF1+, et puis il faudra attendre la quotidienne de lundi prochain pour les premières images. Mais c'est vraiment le moment très attendu de la semaine pour les élèves et aussi maintenant pour les téléspectateurs, du coup.
Bah, je m'en réjouis, ça me fait très plaisir de l'apprendre. C'est un moment qui est hyper important pour les artistes. Dans notre milieu, on appelle plus ça les notes que le débrief, mais c'est la même chose. Et je sais que moi, en tant qu'artiste, je redeviens une élève quand mon metteur en scène me donne les notes à la fin d'une performance, parce que c'est le moment où on a notre troisième œil qui nous dit ce qu'on peut faire pour s'améliorer. C'est toujours ça le but, hein.
Oui, et puis t'es toujours là aussi parce que bah au début ils ont toujours beaucoup de doutes, ils doutent d'eux-mêmes, il y a le manque de confiance en soi aussi, t'es là aussi pour les rattraper au moment où ils peuvent flancher à ce moment-là.
Ah bah oui, bien sûr, le but c'est, comme je dis, c'est de leur donner les aider à déployer leurs ailes pour qu'ils s'envolent et qu'ils aient plus besoin de nous.
Merci Marlène.
Merci beaucoup.
Et on te retrouve samedi évidemment à 21h10 pour le grand lancement de la Star Academy. À très vite.
J'ai juste besoin de tes yeux, de leur éclat dans la nuit. Tu sais, je finirai peut-être pas vieux, mais ensemble on fera du bruit.
On criera tous les deux à l'ombre de la pluie. Mais avant faut que je poste ma story ce soir avant minuit. Je laisse filer la folie. Pour toi je sillonne le monde à la poursuite de tes bravos, en me demandant toutes les secondes s'il est trop tard ou bien trop tôt. Pour toi je sillonne le monde à la poursuite de tes bravos, en me demandant toutes les secondes est-ce que ça me mène en bateau. Tu vois si je joue le chat, c'est pour que tes yeux baissent les armes, le temps de rallumer la flamme. Si je joue le jeu, c'est pour que tes yeux sèchent la larme, quitte à le payer de mon âme.
Si je joue le jeu,
moi de quoi j'ai l'air, le soir j'en ai assez. Prends-moi la lumière des néons fatigués. J'en ai rien à faire si je dors m'y brûler. L'amour des miens, le soleil dans la peau. Et quand tournent les chiens, moi je leur tourne le dos. Oh. Derrière mon sourire, y'a tes mots. C'est pour toi que je tends la main. Quand tu cries, ça me tient chaud. Faut pas que je brûle avant la fin.
Pour toi, je sillonne le monde
à la poursuite de tes bravos, en me demandant toutes les secondes s'il est trop tard ou bien trop tôt. Toi je sillonne le monde à la poursuite de tes bravos, en me demandant toutes les secondes est-ce que ça me mène en bateau.
Tu vois si je joue le chat, c'est pour que tes yeux baissent les armes, le temps de rallumer la flamme. Si je joue le chat, c'est pour que tes yeux sèchent la larme, quitte à le payer de mon âme.
Si je joue le jeu, moi de quoi j'ai l'air, le soir j'en ai assez. Prendre la lumière des néons fatigués. J'en ai rien à faire si je dors m'y brûler. Prendre la lumière.
Si je joue le jeu,
moi de quoi j'ai l'air, le soir j'en ai assez. Prendre la lumière des néons fatigués. J'en ai rien à faire si je dors m'y brûler. Prendre la lumière.
Si je joue le jeu.
Allez, on continue avec nos répétitrices Fanny Delegue et Lucie Bernardoni qui sont avec nous. Bonjour les filles.
Bonjour et merci.
Coucou.
Quelle impatience, dans 6 jours on y est. J'imagine, vous, que ça doit trépigner un truc de dingue.
Bah là, on est en plein dedans. Là, on a qu'une hâte, c'est que vous puissiez découvrir les nouveaux élèves.
C'est vraiment une rentrée très excitante. On a eu une belle saison l'année dernière et là, ça va être incroyable encore. J'ai trop hâte vraiment que vous puissiez les découvrir aussi.
C'est vrai que depuis l'année dernière, vous formez le duo qui fait répéter les élèves, qui nous donne des primes absolument dingues. Je pense qu'on se souviendra longtemps de la finale avec Bonnie Marine, franchement, que vous nous avez préparé avec elle. Et on sent en même temps une alchimie entre vous deux, on dirait presque deux sœurs aujourd'hui.
Ça me va, ça me va.
Après, c'est presque le nom de la nouvelle chanson.
C'est nos sœurs jumelles à nous.
Et puis ça s'est fait naturellement et on est complémentaires. S'il n'y a même pas de mots, c'est inexplicable.
Et puis on rit beaucoup.
Non. Parce qu'on n'a pas du tout d'humour.
Moi, j'ai jamais l'impression d'aller travailler grâce à toi.
C'est vrai.
Parce que je sais qu'on va en chier, mais je sais qu'on va être ensemble, qu'on va rigoler et que ça va bien se passer.
Bah ouais, moi c'est pareil. Puis des fois, je sors des trucs au milieu de nulle part et je dis, mais c'est pas possible, elle a vraiment sorti ça. Allez, on y va, on y retourne et on travaille.
Ce qui est chouette, c'est que vous êtes toujours la bienveillance quand même avec les élèves aussi. On le disait avec Karima aussi, vous êtes un peu les grandes sœurs parce que vous êtes là pour les aider à progresser dans leur parcours. Il y a des moments d'émotion, je crois que vous passez pas un prime sans pleurer, hein, toutes les deux.
Alors au-delà de grandes sœurs, on en essaie d'être assez technique quand même, parce qu'on a beaucoup de travail à leur faire. Et c'est vrai qu'on a tellement de peu de temps qu'il faut qu'ils travaillent, quoi.
Puis on les voit galérer, on les voit travailler, on les voit se battre, s'accrocher. Donc forcément, quand ça fonctionne et qu'ils sont sur scène, on est hyper émus, c'est sûr. Non, on est vraiment ravis et on a vraiment hâte que cette saison commence et que vous puissiez les découvrir. Ça va être génial.
Dernière question juste avant de terminer. Évidemment, qu'est-ce que vous allez leur dire en premier au petit nouveau là qui arrive samedi?
Bienvenue.
Bienvenue et surtout amusez-vous et oubliez pas que ce n'est rien de grave, ce n'est que de la musique et c'est de la vie.
Et en plus, ils vont avoir deux accompagnatrices de folie. Merci Fanny et merci Lucie. À bientôt.
Merci.
Il y a ma main dans la fenêtre.
rêve titanique. Y'a des choses que je comprendrai jamais, pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi, italique. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. Super sexy, you make me feel nice. Rissant every time, j'y ai pensé mille fois. If you want me, dis-moi. You make me feel good. Et plus je me sens à l'aise, ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi, cyanide. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. I've been away and now I'm back to you. C'est arrivé. You make me feel good. La main sur ma taille, on s'en va dans le taxi. C'est vraiment super sexy. You make me feel nice. Rissant every time, j'y ai pensé mille fois. If you want me, dis-le-moi. You make me feel good. La main sur ma taille, on s'en va dans le taxi. C'est vraiment super sexy. You make me feel nice. On descend every time. J'y ai pensé mille fois. If you want me, dis-moi. You make me feel good.
Et puis place à notre nouveau professeur de danse, Jonathan Janvrin, qui est avec nous. Bonjour Jonathan.
Hello, comment ça va?
Eh ben, ça va très très bien. Première année, coup de feu?
Let's go, j'ai hâte que ça commence. Là, ça me brûle les doigts.
Qu'est-ce qui t'a fait dire oui?
L'envie de transmettre. Vraiment, j'ai accompagné tellement d'artistes, j'ai chorégraphié pour tellement de monde et j'ai voyagé dans tellement d'endroits que là, j'étais cette espèce de dictionnaire de la danse que j'ai envie de proposer aux académiciens.
Alors toi qui es un digne héritier des Kamel Wally, etc., c'est vrai qu'à quoi on peut s'attendre?
Autre chose, vraiment, je viens pas pour servir de l'eau tienne.
Ah ouais, carrément.
Voilà.
Bon, tu vas y aller franco.
Je vais y aller franco, ouais.
Quelle est la première chose que tu as envie de dire aux élèves quand même, que tu vas découvrir samedi?
Alors, je sais que c'est une phrase un peu bateau, mais vraiment j'y tiens, le travail paye, en fait il n'y a que ça. Il faut être un travailleur acharné et aussi, je pense, la curiosité des autres corps de métier, s'intéresser à tout.
Oui, parce que là, tu intègres un corps professoral assez complet, justement, dans un cursus. Ils vont avoir des doutes, il va y avoir des coups de mou, justement. Comment tu vas t'y prendre avec eux là-dessus quand ça va être compliqué, plus qu'à certains moments, plus qu'à d'autres?
En fait, mon rôle aussi... C'est de les accompagner en fait au maximum, de leur dire qu'on est tous là pour eux quand même. Il y a toute une équipe de professionnels qui les accompagnent et s'ils se rendent compte de ça, ils vont retrouver l'énergie.
Alors Jonathan, il va y avoir des petites nouveautés quand même, parce qu'il va y avoir des missions avec un élève qui va être choisi chaque semaine pour une chorégraphie, chanter et danser en même temps.
Oui, et ben en fait le nom c'est Défi chanter danser et ça porte bien son nom.
C'est très compliqué ça.
Ça va être très compliqué, mais très compliqué oui et non, parce que ça va être du sur-mesure pour tout à chacun. Donc l'idée c'est vraiment de trouver leur signature chorégraphique.
Et à chaque élève qui réussira, il y aura une place importante pour la tournée.
Exactement.
Ça va être un défi de folie ça.
Ça va être un défi de folie et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de mettre en place tous ces tableaux.
Parmi les invités qu'il va y avoir, on sait qu'il y a des invités internationaux, il y a beaucoup de chanteurs français, Ed Sheeran qui va être un des parrains de l'émission. Quels sont ceux que tu as hâte de rencontrer?
Les deux, je les adore les deux, mais j'avoue, you make me feel good, je suis fan.
Charles Cardin, évidemment, qu'on adore tous, c'est vrai.
Complètement, désolé, je suis le pire chanteur au monde.
Bah écoute, au moins t'es le meilleur danseur, hein, ça compense.
Voilà, meilleur danseur, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis pas le meilleur chanteur.
Bon, l'arrivée au château.
L'arrivée au château, j'ai hâte. J'y suis jamais allé, donc pour moi, il y a pas de triche. C'est une vraie découverte.
C'est une légende.
C'est une légende. Je l'ai vu à la télé, mais voilà, je vais rentrer dedans. Incroyable.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Jonathan, dans 6 jours?
Que tout se passe bien. Voilà, c'est tout. Après, l'énergie, l'envie, je l'ai. Donc, juste que ce soit fluide et que les académiciens ont envie d'apprendre et me fassent confiance.
C'est sûr. Merci beaucoup, en tout cas, Jonathan.
Merci à toi. Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Dans quelques semaines, la Star Academy rouvrira ses portes. Et en exclusivité, voici qui seront le parrain et la marraine de la nouvelle promotion.
Salut, c'est Ed.
Bonjour tout le monde, c'est Charlotte Cardin.
Ed Sheeran, star internationale au tube incontournable. You make me feel good. Et Charlotte Cardin, la nouvelle sensation pop. Viendront soutenir et encourager les nouveaux élèves.
C'est un honneur et un nouveau défi pour moi.
J'ai tellement hâte de découvrir les nouveaux talents.
À très vite sur TF1.
Événement, Ed Sheeran et Charlotte Cardin parrainent la nouvelle saison de la Star Academy prochainement sur TF1.
Il était finaliste de la saison 2023 de Pierre Garnier. Axel Marbeuf va venir nous donner de ses nouvelles et va venir nous parler de ses projets. Alors surtout, ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
J'ai grillé tous les stops, trop de questions dans ma tête. J'aimerais me poser dans des bras qui m'enveloppent. Je passe toujours à côté, je les cherche en cachette. Dans mon horoscope, moi j'aimerais qu'on me dise mon avenir, qu'on me dise que des bonnes surprises et qu'on existe tous les deux. J'ai le cœur maladroit, j'ai pas le mode d'emploi pour une, toi et moi, mon amour et mon cœur là. Il paraît que ça viendra, s'il te plaît, m'en veux pas, j'ai le cœur maladroit. Plutôt raisonnable, sauf quand je pète un câble. Merci pour les fleurs laissées sur la table. Et si je les abîme, c'est parce que j'ai le cœur en zone inondable. Mais si jamais tu insistes, je t'emmènerai sur la piste sans savoir danser. Commence à durer, mais tout va recommencer. J'ai le cœur maladroit, j'ai pas le mode d'emploi pour une, toi et moi, mon amour et mon karma. Il paraît que ça viendra, s'il te plaît, m'en veux pas. J'ai le cœur maladroit, je ne connais pas la suite, et mon cœur bat si vite, mon amour et mon karma. J'ai le cœur maladroit.
Les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Et on continue notre spécial Star Académicien. Eh bien oui, parce qu'on prend des nouvelles de nos anciens. Eh bien comme promis, c'est Axel qui nous rejoint. Bonjour Axel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, demi-finaliste, il y a 2 ans. Une nouvelle promo fait son entrée au château samedi. J'imagine que c'est non sans émotion que tu vois ces petits nouveaux rentrés dans le château et avec un peu de nostalgie, j'imagine aussi, Axel.
Ouais, toujours un peu nostalgie, puis en vrai de voir que je sais déjà la chance qu'ils vont avoir de vivre cette saison-là, donc en vrai je leur souhaite beaucoup de bonheur, et ça fait toujours bizarre, mais c'est cool de voir des nouveaux prendre leur envol.
Comment t'as vécu toute cette aventure? T'as été en plus jusqu'en demi-finale, tu nous as amené vraiment un plein d'émotions. Moi je me rappelle de prestations qui étaient absolument incroyables, dont une où tu t'es livré vraiment à cœur ouvert au public. T'avais du mal un peu au début justement à te livrer, et puis ben c'est parti, et il y a cette notoriété qui, en sortant du château, qui peut être difficile des fois à gérer, surtout quand on est demi-finaliste et qu'on va aussi loin dans l'aventure.
C'est très soudain, ça c'est sûr, parce qu'on est vraiment on vit en autarcie pendant ce moment-là, donc on sort, on découvre tout ça et puis on rencontre enfin les gens. Moi, c'est ça que j'étais content d'enfin voir les gens en réel, que ce soit sur la tournée ou sur ma tournée estivale après, de voir enfin des visages et pas juste imaginer les gens qui sont derrière leur poste de télé, et de voir les personnes en vrai, c'était le plus gratifiant pour moi. Mais c'est vrai qu'on n'imagine pas qu'il y a autant de monde en fait. C'est dur de quantifier les grands chiffres, on a toujours du mal, mais c'est plusieurs millions de gens qui nous ont regardés, et du coup je n'ai rencontré plusieurs centaines de milliers, c'est déjà fou quoi.
T'es d'accord quand on dit que quand même cette Starac 2023 restera iconique? Ça a été une Starac quand même différente des autres, où on a vraiment senti l'amitié, la bienveillance, on a senti une alchimie, où tout le monde était là un peu dans le même sens, tout simplement le sens de devenir artiste, d'être là pour la musique, pour la même passion. Ça c'était beau à voir, je pense que c'est ça aussi la recette qui a fait que cette Starac restera dans les mémoires à tous.
Bah c'est vrai que c'est compliqué pour moi de dire, parce que j'étais dedans, donc j'ai pas vu l'engouement qu'il pouvait y avoir dehors ou quoi que ce soit, mais beaucoup de gens nous disent qu'ils ont adoré notre saison, et en vrai tant mieux pour nous, parce que ça nous permet après de faire nos carrières derrière, et en vrai ouais, si on reste dans le cœur des gens le plus longtemps possible, moi je le refuse pas, ça c'est sûr.
Alors c'est vrai que rester dans le cœur des gens, bah c'est plus difficile après derrière, même si c'est un accélérateur de vie. Et effectivement, maintenant passer, on va dire cette période après Starac, t'as eu le temps justement de réfléchir, de sortir quelques titres, de savoir un peu dans quel univers musical t'allais vouloir aller te poser.
J'ai eu la chance de faire une tournée estivale dès la fin de la tournée avec l'émission, et ensuite j'ai fait une comédie musicale. Je me suis testé à plein de genres différents en studio, etc. Et moi j'aime vraiment faire de la pop, qu'elle soit up tempo, donc c'est-à-dire qu'elle soit rapide ou qu'elle soit lente. J'aime bien tout ce qui est pop, tout ce qui est rock. Donc en vrai c'est vers là-dedans que je me dirige. J'adore aussi la comédie musicale, j'ai eu la chance d'en faire une sur Je vais t'aimer, c'était vraiment un plaisir total de faire ça, d'en rencontrer d'autres artistes aussi. Moi c'est ça qui me passionne, et j'aime beaucoup rencontrer d'autres gens. Je pense qu'on devient meilleur quand on s'entoure de personnes qui déjà sont bonnes et qui sont fondamentalement gentilles, mais en plus qui ont cette passion pour la musique, et j'ai adoré être dans cette troupe. Donc en vrai c'est un vrai plaisir pour moi de naviguer un petit peu entre toutes les choses qu'on peut faire dans la musique, et j'y prends plaisir.
Si Starac t'a permis de rencontrer plein d'artistes différents aujourd'hui, est-ce qu'il y en a avec qui aujourd'hui t'es resté vraiment en contact, avec lesquels t'aimerais peut-être collaborer sur un futur album, ou tu rêverais peut-être de collaborer en tout cas?
J'ai eu beaucoup de chance, qu'il y avait des artistes que j'admirais beaucoup avant l'émission, que j'admire toujours aujourd'hui, et avec qui j'ai eu la chance de travailler depuis. Je pense notamment à Maël, avec qui j'ai pu écrire un single entier, j'ai pu faire ses premières parties, et du coup moi c'était dingue, parce qu'il y a encore deux ans et demi, j'étais littéralement le fan qui écoutait sur son téléphone tout
l'effet de masse.
C'est ça, l'effet de masse, tout son dernier album, etc., fil rouge, et je me disais mais c'était fou. Et là de dire que je bosse avec elle, on va en studio, on écrit, c'est assez dingue, tout ça en quelques mois à peine. Donc non, j'ai eu beaucoup de chance et je continue à rêver grand.
Et t'as raison de rêver grand, il faut rêver grand, parce que c'est une aventure hors du commun que vous avez vécu, et autant prendre tout le bon de cette aventure en tout cas, et le public vous le rend bien. On va en parler justement de cet avenir qui t'attend, Axel. On va écouter un petit extrait d'un de tes deux titres qui est sorti il y a quelques mois maintenant, Pourquoi tu te fais du mal, ou Depuis toi, lequel t'as envie de choisir là par exemple?
Moi je pense que le plus personnel, je pense que c'est Depuis toi, et c'est peut-être celui qui parlera le plus aux gens, mais les deux sont bien, faut écouter les deux pour comprendre que c'est vraiment une histoire qui est en deux étapes. Pourquoi tu fais du mal, c'est le début de l'histoire, et Depuis toi c'est la fin de l'histoire. On se doute évidemment qu'il y a la perte de quelque chose, de quelqu'un, d'un lieu ou autre, et Depuis toi du coup, comme c'est la fin de l'histoire, je trouve que c'est toujours bien de comprendre ce qui se passe. Donc Depuis toi ça me plaît bien.
Et bien on va en écouter un petit extrait, et puis vous pouvez de toute façon télécharger les deux titres sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement légal évidemment. Mon cher Axel, on écoute et on revient juste après avec toi, tout de suite.
Le salon, je t'aperçois, mais tu n'es plus là depuis des mois. J'attends encore sans y croire, toutes les nuits, tous les soirs. J'ai laissé venir les doutes, les peines. Sans toi, je me suis brûlé les ailes. Tu es parti sans un je t'aime. Rien ne sera jamais pareil. Depuis toi, plus de sens.
silence. J'aimerais revenir en arrière. Je donnerais tout sur terre pour oublier que tout se défait. Te faire rester un instant ou presque. Tu ne m'as pas laissé te dire adieu. Te tenir la main même un peu. Qu'est-ce que je peux y faire moi si c'est le chaos depuis toi. Depuis toi, tout n'est que silence. Depuis toi, rien que ton absence.
Axel Marbeuf qui est avec nous aujourd'hui. Eh bien oui, maintenant, mais son nom, c'est plus Axel de la Starac, c'est Axel Marbeuf, un véritable artiste qui est né. Et c'est beau de voir éclore justement des artistes. On va en voir des nouveaux samedi justement pour cette nouvelle promotion de la Starac. Mais justement, Axel, c'est tout un bel avenir qui t'attend aujourd'hui. Il y a un album en préparation, j'imagine.
Il y a différents sons en préparation. Peut-être que ce sera un album, je ne saurais pas.
Peut-être un EP en premier.
Voilà, peut-être un EP. On verra un peu aussi en fonction de ce que j'ai envie de faire sur le moment. Mais je vais en studio le plus possible, j'écris le plus possible et je vois un petit peu ce qui marche ensemble, ce qui marche pas ensemble, et j'essaie de raconter des morceaux de mon histoire ou de mon vécu, et on verra comment sous quelle forme j'ai envie que ça sorte. Mais en tout cas, je travaille, je reste pas les bras croisés à attendre que tout se fasse pour moi.
Alors évidemment, Axel, toi qui t'es aguerri maintenant aussi un peu à la comédie musicale sur Je vais t'aimer, est-ce que t'as des envies d'aller un peu côté comédie, comme par exemple peut-être certains copains que tu connais qui ont été surtout pas à Lumière, mais est-ce que t'aurais des envies de jouer?
Bah c'est vrai que le côté de l'acting, c'est le côté qui me fait un peu peur, parce que c'est là où j'ai le moins d'aisance, c'est là où j'ai vraiment encore beaucoup de choses à apprendre. Mais la comédie musicale, c'est tellement complet, c'est tellement une formation, enfin c'est une qui est vraiment très formatrice, et je me dis on peut apprendre beaucoup de choses en dedans, et j'en ai appris beaucoup grâce à Je vais t'aimer. Et si l'occasion se présente, évidemment je pense que il y a peu de chances que je refuse, et donc on verra bien avec le temps ce qui s'ouvre à moi. Mais ouais, c'est quelque chose où, en tout cas, à qui j'ai pas fermé la porte, ça c'est sûr.
Qu'est-ce que t'apprends le plus justement sur une comédie musicale? Qu'est-ce qu'il y a de plus que des plateaux énormes comme t'as pu faire sur la Starac? Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus comme expérience?
Ce que ça apporte en plus, déjà, c'est le fait d'être à plusieurs. En vrai, ce qu'on peut chanter à plusieurs, mais on a chacun appris sa petite ligne, ou alors on a un prompteur, etc. Donc c'est différent. Il n'y a pas toujours la vraie connexion qu'il y a quand on est sur scène avec des artistes de comédie musicale, parce que là, il n'y a pas de prompteur. Là, c'est, si tu oublies ta ligne, la personne d'après, elle peut pas lancer sa ligne, elle peut pas lancer sa chanson, et du coup, il y a un peu plus de pression, il y a un peu plus d'enjeux, mais en même temps, c'est une très grande famille. Et moi, j'ai une vraie passion. Alors, j'adore faire mes concerts en solo, il n'y a aucun souci, mais je m'aime aussi beaucoup être en groupe, sur scène, et en comédie musicale, je trouve que c'est hyper fort, parce que la force du groupe porte vraiment le spectacle, et ça se ressent dans la salle. C'est quelque chose qui moi m'émeut beaucoup et que j'aime beaucoup. Je prends beaucoup de plaisir en faisant ce genre de choses sur scène.
Comment tu travailles tes titres? Est-ce que tu écris tout toi-même? Est-ce que tu t'entoures un petit peu aussi de personnes pour la composition? Comment tu travailles?
Alors je m'entoure, en vrai, j'écris rarement tout seul. Alors souvent j'ai des débuts de chansons, voire des fois des chansons complètes qui sont faites dans ma chambre, ou je suis dans le métro, dans le taxi, j'ai une idée et je l'écris. Et ensuite je vais en studio avec d'autres auteurs, parce que je trouve que c'est toujours bien d'avoir plusieurs visions de ce qu'on fait, parce que des fois on passe à côté de quelque chose qui pourrait être mieux, parce qu'on est juste borné dans ce qu'on voulait faire. Et donc j'entoure de plusieurs personnes qui changent tout le temps, jamais les mêmes personnes, en tout cas pas pour le moment. Et comme ça je vois un petit peu comment j'arrive à écrire avec certaines personnes, l'aisance qu'il y a avec d'autres. Parfois certains, il va mettre des mots sur des choses que j'arrivais pas forcément moi à matérialiser, et de fil en aiguille on écrit comme ça une chanson. Des fois on part de zéro, juste d'une idée, d'une envie, écrire sur l'amour, sur la plage, ou quoi que ce soit, et puis d'un seul coup on va écrire sur autre chose. Et puis je peux arriver et me dire bon, j'ai pensé à cette chanson, qu'est-ce qu'on en pense, comment on l'arrange, qu'est-ce qu'on en fait, et ça avance comme ça.
Il y a des moments qui sont plus opportuns, qui t'amènent un peu plus d'inspiration ou pas?
Ben c'est vrai que je suis quelqu'un de très empathique, donc j'ai tendance à vraiment me mettre à la place des gens directement, quand c'est dans du bonheur, dans du malheur, dans de la tristesse ou de la joie. Et du coup j'ai un petit peu cette facilité à me glisser dans la peau des gens et à me dire ok, là C'est ça l'émotion que je pense ressentir. Et donc écrivant dessus, etc. Des fois ça va être une phrase d'un film, une phrase d'un autre chanteur qui va m'inspirer. Puis parfois ça va juste être moi qui va faire un truc. Je me dis attends, mais ça je pourrais le faire en chanson, etc. Et je m'inspire de mon vécu, mais aussi du vécu des autres, que ce soit mon cercle proche ou alors des connaissances plus lointaines ou même des gens que je connais pas, dont j'ai entendu l'histoire. Et je trouve qu'on peut s'inspirer de beaucoup de choses. Et j'essaie de m'inspirer de tout ce qui m'entoure au maximum.
Tu m'entendras. C'est ton dernier titre. C'est celui qu'on va écouter dans un instant. Axel, parle-nous un petit peu de cette chanson.
Tu m'entendras, j'ai eu la chance de l'écrire avec Maël, qui est une artiste que je suivais depuis des années. Et là, c'est un peu le rêve de gosse de se dire, bon, on peut écrire avec quelqu'un qu'on écoutait. C'est un petit peu fou, d'un seul coup, on se retrouve dans le même studio. Et je dis, voilà, j'ai envie d'écrire, j'ai un thème particulier en tête, j'ai déjà des idées de phrases, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, ok, je kiffe, ça sort de ma zone de confort aussi. Allons-y, écrivons. On s'est aussi entouré de Mahmoud, qui est un compositeur très talentueux. Et j'ai dit, voilà, j'ai un truc pop, j'ai un truc rock, j'ai un truc pour l'été, j'ai un truc où les gens peuvent chanter à fond dans la voiture avec s'ils le veulent, en même temps mettre toute leur trip dans cette chanson. Et moi, c'est comme ça que je l'ai écrite, en un petit peu un message de libération et d'espoir aussi, pour dire que c'est pas parce que parfois certaines personnes ne font plus partie du chemin que la route sera moins bien ou moins belle. Au contraire, parfois, il y a des personnes qui partent et pour le mieux. Il faut savoir se servir de ça pour avoir de l'inspiration. Et en vrai, c'est ça que je voulais transmettre. Peu importe qui t'entoure, tout le monde, toi, tu es en accord avec ce que tu fais et que tu sais ce que tu veux faire, il n'y a vraiment que peu de choses qui peuvent t'arrêter.
Alors même si l'été, allez, quelques semaines derrière nous maintenant, on avance tout doucement dans l'automne, ça va nous faire un petit retour en arrière, plein de soleil, et ça va nous faire du bien. Dernière question, Axel, quel conseil tu donnerais aux académiciens qui vont rentrer dans le château samedi?
Je leur dirais déjà c'est un peu compliqué, mais de prendre conscience de ce qu'ils font. Moi, quand je suis arrivé au château, je me suis dit, mais là, je suis dans ma télé, c'est bizarre. Je me rends compte qu'il y a un truc qui est bizarre.
De réaliser, tout simplement.
Il faut qu'ils arrivent à réaliser, et surtout, en fait, à profiter. Ce sera une fois dans votre vie, ça passe beaucoup plus vite, même si la première semaine paraît durer une éternité. Ça passe très vite, on voit les copains partir, c'est compliqué, mais on a le plaisir de rester, mais en même temps, la culpabilité de rester aussi. Et en vrai, non, il faut kiffer, être soi-même, être authentique. Les gens le verront, pas forcément tous les jours, mais ils le verront dans le live, etc. Il faut compter sur ça, et puis en vrai, profiter à fond, et vraiment, on regarde loin devant. Et on vise le bout du cursus.
Allez, on garde le cap, effectivement, spécial Star Academy. On prend des nouvelles des anciens élèves, justement, qui sont devenus aujourd'hui des artistes, qui nous proposent des titres à eux. Et ça, c'est un vrai bonheur, en tout cas, de pouvoir vous écouter tous. Axel, merci.
Merci beaucoup.
Et tout de suite, tu m'entendras. C'est Axel Marbeuf dans Chute, on écoute la télé. À tout de suite.
Toi et moi, c'était bien, mais t'as voulu mentir. Toi et moi c'était bien, je crains ton bon alibi. Tu disais que sans toi, j'arriverais à rien. T'as essayé d'étouffer la flamme au creux de ma main. T'es parti sans te retourner, voler la lumière dont j'ai rêvé. Maintenant que t'es plus là, je peux enfin m'imaginer briller. Où que tu ailles, je serai là. Tu ne pourras parler que de moi. Rien ne m'arrêtera, tu verras. T'entendras ma voix. Où que tu ailles, je serai là. Tu ne pourras parler que de moi. Rien ne m'arrêtera, tu verras. T'entendras ma voix. Tu m'entendras. Toi et moi c'est plus rien, un mauvais bon souvenir. Toi et moi c'est plus rien, enfin, du meilleur au pire. Tes amis sur Insta, en privé que tu n'aimes pas, avec qui tu riais aux éclats. La veille c'était moi. J'ai écrit pour me retrouver, prendre la lumière dont j'ai rêvé. Maintenant t'es plus là, je peux enfin m'imaginer briller. Où que tu ailles, je serai là. Tu ne pourras parler que de moi. Rien ne m'arrêtera, tu verras. T'entendras ma voix. Où que tu ailles, je serai là. Tu ne pourras parler que de moi. Rien ne m'arrêtera, tu verras. T'entendras ma voix. Tu m'entendras.
tu m'entendras.
Où que tu ailles, je serai là. Tu ne pourras parler que de moi. Rien ne m'arrêtera, tu verras. Oui, tu m'entendras.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Nous recevrons Théo Lavabo. Il a été un des candidats emblématiques de la France, un incroyable talent. Et puis bien d'autres surprises, puisqu'on aura le plaisir de recevoir aussi Hector Langevin, l'un des héros de la série. Demain nous appartient pour son rôle de Bart, évidemment.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chute, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.